Et deuxième moitié d'heure, on va commencer tout de suite avec Richard Gagné, qui est le chef restaurateur au Musée des beaux-arts de Montréal. Et oui, la restauration d'œuvres d'art, hein, c'est absolument fascinant. C'est tout un métier, tout un domaine. Ça demande toute une expertise. Bonjour.
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 Et puis, on parlait de votre retraite à venir. Vous allez continuer à être dans le domaine, mais ça fait très, très longtemps que vous faites ça.
Oui, ça fait quand même une quarantaine d'années là, que j'ai commencé le métier. Au départ, au Musée des beaux-arts du Canada pendant à peu près 23 ans. C'est là que j'ai développé mes spécialités comme restaurateur en art contemporain, toutes pratiques confondues. C'est-à-dire que j'ai été formé en peinture, mais éventuellement, de par les pratiques de l'art contemporain, puis la spécificité aussi de la restauration par rapport à la déontologie générale qui existait, qui était établie à peu près vers la fin des années 50, en particulier avec Cesare Brandi. À partir de là, on s'est rendu compte qu'en art contemporain, il y avait quand même une limite à cette déontologie-là, comme par exemple le fait que des artistes utilisent des objets de nature industrielle qui pouvaient amener cette possibilité de pouvoir remplacer ces objets qui étaient abîmés par le même dans certaines circonstances, ou encore de se retrouver avec des œuvres à contenu médiatique, où là, il y a tout le problème de l'obsolescence des médiums, des équipements qui se posent, toute la question de la migration, de pouvoir maintenir tous les fichiers qui, à l'époque, étaient de nature analogique vers le numérique, de faire les transferts. Et donc, c'est des œuvres qui sont continuellement en mouvement, mais dont il faut quand même arriver à déterminer quelle est l'intégrité de cet objet-là, ouais, au niveau de ses contenus, au niveau de ses manifestations, au niveau aussi des effets qu'il va y avoir parfois avec le public qui va entrer en interaction avec ces objets-là. C'est ce qui fait que c'est comme ça que le métier de la restauration s'est beaucoup diversifié, en particulier avec l'art contemporain.
Ouais, alors c'est en constante évolution, bien
oui,
sûr, parce que la technologie aussi,
de toute façon,
bien
oui.
sûr, évolue. Et puis, bon, vous avez... c'est ça. Est-ce qu'il y en a un problème avec le son? Peut-être? Non, je ne sais pas. Je ne penserais pas. Mais en tout cas, chose certaine, c'est ça, vous avez étudié en chimie au départ.
Oui, c'est ça. J'ai étudié d'abord, j'ai fait un bac en chimie et à peu près en même temps, j'ai commencé à faire une majeure en histoire de l'art à l'époque à l'Université de Montréal. Et puis, c'est par un pur accident que j'ai entendu parler en écoutant justement une émission de radio dans le Grand de la Foire Radio-Canada qui rencontrait un restaurateur et tout à coup, j'ai été saisi, puis je me suis dit, mon Dieu, ça parle de quelque chose qui pourrait vraiment, vraiment
c'est
intéresser.
C'est exactement ce que vous avez dit.
C'était le croisement parfait.
Oui, vous avez dit, c'est ça que je veux faire. Mais évidemment, et après ça, vous avez étudié en histoire de l'art aussi, alors, parce que ça demande toute une expertise. Mais effectivement, comme chimiste, alors là, vous avez non seulement des matériaux, mais vous avez toutes sortes de choses qui relèvent de la chimie quand vous faites de la restauration d'œuvres d'art.
Même par rapport à la restauration traditionnelle, si on passe par exemple à des restaurateurs de peinture. Aujourd'hui, par exemple, la technique des rentoilages, c'est-à-dire de doubler une toile qui est affaiblie structurellement, soit par cause de déchirure ou par oxydation du support. Mais aujourd'hui, on utilise des colles qui sont complètement différentes. C'est quand même la tradition du rentoilage remonte quand même au 17e siècle. À l'époque, ça se faisait avec la cire, avec des mélanges de cire-résine naturelle. Aujourd'hui, on fait ça avec des colles synthétiques, souvent en base d'acrylique, qu'on va réactiver, par exemple. Ou aussi, on va établir des liens qui vont être seulement de façon minimum, pour justement essayer de maintenir la qualité, si on veut, d'une toile au niveau de son impression, de pas aussi par des effets de pression. À l'époque, on faisait ça de façon très intuitive, en travaillant avec des fers à repasser, ce qui faisait qu'on se trouvait aussi à chauffer le film de peinture, ce qui fait que le film migrait à travers, jusqu'à un certain point, s'intégrer un peu plus à la texture de la toile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, quand vous voyez des toiles de maîtres anciens, vous allez voir parfois la texture de la toile qui est très marquée. Mais ça, c'est probablement parce qu'une toile a été rentoilée, un peu trop chauffée, et que le film d'huile, en se ramollissant, s'est intégré un peu plus à la texture, alors que au départ, la surface était probablement très, très lisse, comme on voit, par exemple, dans les pratiques de l'art contemporain, par exemple.
Alors, vous travaillez de concert avec un commissaire, c'est-à-dire quelqu'un
qui... Oui, les conservateurs au musée.
Les conservateurs du musée, c'est-à-dire. Et puis, après ça, évidemment, vous avez à travailler sur les œuvres, mais vous êtes toujours à trouver des solutions, justement, pour... parce que là, vous ressortez parfois des œuvres. Alors, il faut faire une intervention sur cette œuvre-là. Alors, c'est vraiment toujours une espèce de casse-tête à chaque fois.
Non, c'est vrai. Puis, c'est assez excitant de revoir des œuvres. Ce qui est intéressant de travailler aussi dans un musée, c'est le fait aussi que nos interventions ont tendance, contrairement à des restaurateurs qui travaillent dans le privé, à être un peu plus minimales parce qu'on revoit l'œuvre de façon assez régulière au fil des années, et on peut voir qu'un traitement qu'on a fait se tient bien, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire que dans le privé, on sait que le tableau ou la sculpture va être remis dans un environnement où peut-être les conditions environnementales ne seront pas aussi contrôlées, par exemple, que dans un environnement où il est mis en réserve et après ça, mis dans les salles d'exposition qui sont climatisées de façon assez adéquate. Fait que ça, c'est vraiment intéressant dans ce rapport-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de développer aussi une espèce de politique générale par rapport à la gestion de l'ensemble de la collection.
Tout à fait.
D'assurer la santé générale de la collection. Et ça, ça, c'est de la responsabilité des restaurateurs en collaboration avec les gens qui sont à la gestion de la collection, d'assurer comme ça que de la mise en réserve est faite correctement. Parce que toute la question de la restauration, c'est aussi la conservation préventive. C'est-à-dire, c'est d'essayer de voir sous quelles conditions on pouvait mettre un objet pour que sa condition soit maintenue le mieux possible. Comme par exemple, pour les choses aussi simples, par exemple, vous entendez souvent parfois que les œuvres sur papier avec des médiums fugitifs, comme par exemple l'aquarelle, le pastel, vont être exposées seulement 4 mois à une certaine intensité lumineuse. En général, quand on rentre dans des salles où il y a beaucoup de photographies couleurs ou de dessins, à ce moment-là, l'illumination générale est de beaucoup diminuée. Elle est à peu près 50 lux. C'est encore visible, mais c'est toujours atténué. Mais tout ça parce qu'on sait très bien que ces médiums-là sont très sensibles à la lumière.
Exact.
Et après ça, en général aussi, on va les exposer pas plus que 4 ou 5 mois à la fois. Et après ça, on va les remettre dans une politique de gestion générale, les remettre en réserve pendant au moins 3-4 ans avant de les ressortir.
Oui.
Fait que ça, c'est tout un système qui a été développé à travers les musées nord-américains et européens au fur et à mesure du travail qu'on avait à faire avec la collection.
Oui.
Parce que même en art très contemporain, par exemple, dans le moment, on va réouvrir des galeries inuites. On va remettre en valeur toute la collection Inuit. Mais il y a une pratique chez les Inuits au niveau de l'estampe et dessin, et du dessin en particulier, qui est de travailler avec des crayons de couleur. Mais les crayons de couleur, c'est extrêmement fugitif
à la
lumière. C'est ce qui fait qu'on pourra pas, ou par exemple, ils travaillent
conserver
beaucoup.
Conserver ça longtemps si on n'y fait pas attention.
Exactement. La même chose aussi, ils ont tendance à beaucoup travailler avec les crayons feutres, mais qui sont les mêmes crayons feutres que les nôtres, qui sont pas plus stables, et que si on les laisse exposer trop longtemps à la lumière, ils vont pas aller, et on va perdre quelque chose de la saturation des couleurs, puis aussi du degré de la tonalité de l'ensemble de la composition.
De là, l'importance, justement, vous avez une nouvelle réserve au Musée des Beaux-Arts, vous avez aménagé de nouveaux locaux. Alors ça, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, là, je pense, Nathalie, tu as vu les vidéos qui étaient présentes. D'abord, on va citer l'article de la presse qui parle de la restauration au Musée des Beaux-Arts, qui parle de vous, de vos collègues. Et puis, on a mis en ligne des vidéos qui nous permettent de comprendre chacun sa spécialité. D'ailleurs, dans votre domaine, quelqu'un qui restaure des sculptures, quelqu'un qui... on parle de textile. C'est vraiment chacun a sa spécialité.
Il faut le dire, vous dirigez une équipe de 8 personnes.
Oui, c'est ça. C'est un très beau département qui n'est pas le Musée des Beaux-Arts du Canada, on a quelques collègues de plus, mais on se tient vraiment très bien. Puis on est quand même une institution qui a 47 000 objets, là, si vous ne pouvez pas perdre ça de vue.
ça fait beaucoup de travail.
Qui est composé de toutes sortes de collections et puis le programme d'exposition est extrêmement actif au musée.
Ouais.
Alors on est vraiment très, très, très occupé.
Oui, c'est ça d'ailleurs. Bon, c'est pas tous les endroits, enfin les universités qui donnent cette formation-là. Non. Vous l'avez suivi en Ontario, je pense.
C'est ça, à l'Université Queen's à Kingston. C'est le seul programme au niveau de la maîtrise qui correspond à peu près à des modèles de programme américain qui existe dans le moment au Canada. Mais il y a un autre programme qui est extrêmement intéressant au Canada, qui est celui de la formation des techniciens en conservation préventive et qui est ici au Collège Montmorency à Montréal. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que, par exemple, nous, on a 3 techniciens qui travaillent avec nous au cadre en peinture, qui aident aussi à la conservation préventive au niveau des objets de l'art décoratif. En réserve, il y a aussi une technicienne qui travaille au montage des dessins et des estampes de la collection. Et ils ont été tous les 3 formés, finalement, au Collège Montmorency. Et ça, c'est un type de formation qui n'existe même pas aux États-Unis. Et les Américains, lorsqu'ils viennent en convoiement, les restaurateurs, sont assez fascinés de voir qu'il y a un partage de responsabilités qui se passe entre le restaurateur et le technicien, mais qui fait que nous, comme restaurateurs, on sauve du temps pour être un peu plus concentré vraiment sur des décisions plus importantes qui sont liées finalement à l'intégrité de l'objet d'art. Et ça, c'est vraiment très intéressant, très dynamique comme
Alors, c'est comme une belle synergie. C'est ça, c'est une belle collaboration que vous avez entre vous. Donc, ça veut dire que beaucoup de rencontres, de discussions absolument fascinantes à trouver toutes sortes de solutions comme ça. Il y a le transport aussi de ces œuvres-là. Ça aussi, c'est important, c'est un autre volet. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
Oui, puis moi, en contemporain, du fait de la nature... très protéiformes, si je peux dire, des objets et même des tableaux de par leur dimension. Parfois, il y a des dimensions. Des tableaux qu'on est obligé de plier sur des cylindres. Il y a toutes sortes de façons de faire là, que j'ai développées au fil des années. J'ai développé une expertise assez importante par rapport justement aux techniques d'emballage. Et puis ça, j'ai été beaucoup en contact avec un institut à Ottawa qui s'appelle le Centre canadien de conservation, qui est très, très, très important, qui existe depuis à peu près 1973. Et puis là, ils ont autant des scientifiques de la restauration qui font de la recherche fondamentale, tout comme il y a aussi des ingénieurs, et en particulier un ingénieur qui s'appelle Paul Marcon, qui a travaillé sur tous les phénomènes de vibration, de choc des œuvres en transport. Et dans les années 90, ça, c'était un sujet qui a été très, très, très débattu. Parce que dans le milieu de la restauration, ce qui est intéressant, c'est qu'on partage beaucoup, beaucoup nos expériences, et même les expériences qui n'ont pas très bien marché. Il y a quand même beaucoup d'humilité dans notre milieu.
Oui, tout à fait.
Parfois, effectivement, vous avez raison. Et ça, il y a des colloques internationaux qui permettent, de façon thématique, de pouvoir discuter de ces choses-là.
De partager ces
connaissances-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges
là.
D'informations, exactement, dans le milieu de la restauration.
Ah là là là.
C'est un milieu qui est très dynamique par rapport à ça.
Et puis, évidemment, ça demande une habileté aussi manuelle. Les gens, gens ont étudié aussi en art visuel, sont eux-mêmes, des techniques de sculpture. Je pense, sur une des vidéos, on voit très bien une sculpture inuite, là, et puis il manquait un petit outil.
Le petit houlou.
C'est ça, il fallait reproduire ça.
Oui.
Alors, il faut quand même parfois pallier. C'est sûr qu'il y a des œuvres qui ont été, abîmées. Il faut reconstituer certaines parties. Ça peut être un cadre aussi. On voit une dame qui a trouvé le cadre parfait pour une œuvre. Cadre qui traînait dans... Enfin, qui traînait, façon de parler, on s'entend. que vous aviez déjà, mais il fallait le moindre petit détail. Ça vous demande aussi une acuité au niveau de l'œil aussi.
Oui, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de développer, cette intelligence du regard, je dirais.
Oui.
Ça, c'est très, très, très important. Puis c'est quelque chose, dans les années qu'on vit dans le moment, qui se perd un peu avec cette accumulation d'images incessantes, renouvelées. Cette idée du regard porté et d'apprendre et de reconnaître des choses par le regard, c'est une qualité qui se perd beaucoup, beaucoup.
Ouais.
J'ai remarqué, et je le vois dans le comportement même des gens qui visitent le musée. La question de s'imprégner devant une œuvre, c'est quelque chose qui... Mais il y a encore des gens qui le font, mais les jeunes, ils ont vraiment quelque chose à apprendre par rapport à ça, parce qu'ils sont toujours sur le téléphone, il y a toujours cette accélération de l'image et du message, alors que l'idée de l'art, c'est aussi de s'arrêter quelque part et de faire une expérience qui devient assez intime avec certaines surfaces.
Tout à fait. Alors, c'est ce regard, mais cette intelligence aussi, cette compréhension. En fait, il faut préserver l'intégrité de l'œuvre aussi à travers son histoire, dans le contexte dans lequel l'œuvre s'inscrit.
Oui. Puis ça, vous avez raison par rapport à ça. Il existe aussi en art ancien cette attitude de comprendre quelle a été l'histoire, par exemple, d'un tableau et de comprendre les interventions qui ont été faites. Et parfois, il y a des interventions dont on sait qu'elles sont pas tout à fait correctes, mais parce que ça fait partie de l'histoire. Comme par exemple, il y a un tableau très célèbre de Van Gogh dont on sait très bien que c'est Gauguin qui a fait la retouche. Aujourd'hui, la retouche est complètement décolorée. Je pense que c'est à Boston, cette œuvre-là. C'est un autoportrait de Van Gogh. Et puis ils ont été en contact, comme on sait très bien, à Pont-Aven. Et on sait très bien que c'est Gauguin qui a fait cette restauration-là. Alors aujourd'hui, cet élément-là qu'on décrit un peu comme un artefact est maintenu dans le tableau parce que ça fait partie de toute l'histoire symbolique, si on veut, qu'il y a eu autour de ce tableau-là, de ce moment de collaboration qu'il y a eu entre ces deux artistes qui étaient ensemble à un moment donné à un endroit.
Alors vraiment, c'est fascinant parce que c'est tout ce travail à la fois. Puis ça se perd un petit peu en ce sens que, oui, on forme un peu moins de... Il y a de moins en moins... Bien, les grands musées ont des gens comme vous, bien sûr, et c'est important, mais ça se perd quand même. On en forme un peu moins, semble-t-il.
Oui, ça, c'est vrai jusqu'à un certain point, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout le domaine des collectionneurs, c'est des gens qui sont quand même intéressés et qui apprennent aussi, puis qui font restaurer parfois certaines de leurs œuvres, mais qui vont en prendre. Et parfois, on fait des consultations avec eux. Par exemple, on va aller dans leur maison privée et on va leur recommander, par exemple, de ne pas exposer un tableau sur tel mur parce qu'il peut exposer à la lumière. Donc, d'élever cette conscience de la préservation. Il y a des gestes très simples qui peuvent être faits même dans des collections privées, même à vivre. Il faut vivre avec ces œuvres-là, c'est très important. Il faut garder ça vivant quand même. Et puis ça, c'est un aspect qui est extrêmement intéressant et que moi, en art contemporain, j'ai beaucoup, beaucoup cultivé avec des galéristes et avec des collectionneurs.
Alors, Je m'excuse. Alors, c'est vraiment ma faute. Et puis, ben oui, j'assume. Mais cela dit, oui, on parle d'art. En fait, oui, c'est ça. Donc, vous avez chacun, comme on l'a dit, vos spécialités. Oui. Et vous êtes en art contemporain, justement, c'est ce que je voulais dire.
Oui.
Et c'est vraiment une spécialité, ça aussi. Et puis, vous travaillez avec, comme vous l'avez dit tantôt, vous travaillez avec des matériaux totalement différents dans un autre contexte. Alors, vraiment, c'est... Ouais. Alors, on découvre ça. Moi, j'invite les gens. Juste cet article-là, déjà, ça nous...
Dans la presse, oui.
C'est un article, je pense, qui est assez récent, là.
Oui,
et
oui,
puis, vous allez trouver facilement, tout à fait. Et puis, ben, écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir et je souhaite en fait que tout le monde puisse découvrir votre travail qui est à la fois finalement à mi-chemin, en fait. C'est l'art et la science.
Tout à fait, totalement.
C'est le carrefour de l'art et la science.
Et surtout dans le contemporain, parfois, il y a des œuvres qui sont de nature procédurale et puis c'est le restaurateur qui refait l'œuvre aussi. Fait qu'à ce moment-là, il y a une délégation auctoriale, la responsabilité de l'artiste. Et moi, par exemple, je reconstruis parfois des œuvres selon les directives de l'artiste, effectivement.
C'est incroyable. Je me dis maintenant, quand on va aller au musée, on va penser à tout ça.
Ben,
parce que c'est... j'y pensais jamais avant. On va visiter, on regarde les œuvres. On peut prendre notre temps, on peut regarder les œuvres, s'asseoir et les regarder, mais je n'ai jamais... Et je sais pourtant qu'il y a un travail qui se fait en amont, mais il faut y penser à tout ce travail-là qui est fait.
Tout est réfléchi dans les moindres détails.
Effectivement.
Oui, quand on visite un musée, là, dorénavant, on pense à... Quand on dit, là, « touchez pas » ou « éloignez-vous », enfin, vous comprenez...
Pas de flash, caméra.
Oui, on se dit « c'est pas pour rien, il y a une raison, et puis il faut respecter ça
».
Et puis, ça nous est tous arrivé des fois d'avoir une petite distraction et puis de dire, oh, mon Dieu, j'aurais pu, mon Dieu, renverser l'œuvre en question. Parce qu'il y a des œuvres, bien sûr, qui sont dans des boîtes fermées. Là,
oui, dans des vitrines.
Bien sûr, parce qu'il faut que ce soit à température très, très contrôlée.
Oui.
Mais vous, quand même, vous exposez, comme dans le cas de l'œuvre sur laquelle vous travaillez dans la vidéo en question, ben, c'est une œuvre qui va être exposée.
Oui.
Finalement, je pense que c'est une prochaine exposition qui s'en
vient. Qui va venir en février. Exact. C'est la rétrospective de Joyce Whelan.
En 2025. Alors, des œuvres qui vont quand même être exposées à l'air libre. Alors ça, c'est pas rien non plus. Alors ça veut dire qu'après ça, il faut avoir une bonne rotation de ces œuvres-là. Bon, alors merci infiniment d'être venu, M. Gagné. Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.